Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, quelle réponse d'Emmanuel Macron après les pillages samedi sur les Champs-Élysées ? Va-t-il interdire les manifestations non déclarées sur les champs et ailleurs ? Limoger le préfet de police de Paris ? Changer de doctrine de maintien de l'ordre ? Réunion cruciale à l'Élysée. Le gouvernement reconnaît qu'il y a eu échec samedi. Alors que le grand débat s'achève, impression de retour à la case départ. Le gouvernement sous un flot de critiques, le climat inflammable, le débat sur le coût du mouvement des gilets jaunes, entre 2 et 4 milliards, dit ce matin le MEDEF. Et puis un paradoxe. Bonjour Philippe Rendet.
Bonjour.
On parle à nouveau beaucoup de ce week-end de manif alors qu'il n'y avait pas grand monde.
Moins de monde à Rouen, Nantes et Bordeaux. Stratégie assumée ou pas, début de réponse dans quelques minutes.
Quoi qu'il en soit, ce week-end de saccage, sale coup pour l'image de la France. Violence terrifiante, dit le gouvernement allemand. Quelles mesures après ces événements sur les Champs-Élysées, ce sera le principal dossier de cette édition. Avant cela, l'actualité internationale, fusillade ce matin dans le tramway d'Utrecht aux Pays-Bas, acte potentiellement terroriste, dit la police, tireur en fuite. Beira, 500 000 habitants, deuxième ville du Mozambique, presque entièrement détruite par un cyclone. L'invité du journal de 13h, c'est le président d'Harmonie Mutuelle, la première mutuelle de France, annonce une offre reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses auditives et dentaires dès cet été, 2 ans avant l'application de la réforme. Et puis un record, plus de 60 000 spectateurs pour Atlético Madrid-Barcelone, du jamais vu, pour un match de foot féminin. La météo. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France ce matin ?
Eh bien la semaine dernière a été bien perturbée, cette semaine s'annonce nettement plus calme. Pour aujourd'hui, on va quand même devoir composer avec un ciel nuageux à très nuageux. Les averses seront nombreuses sur le nord-ouest, plus isolées ailleurs. Puis on attend quelques averses de neige en montagne des 600 à 1000 mètres d'altitude. Après-midi nettement plus ensoleillé sur le pourtour méditerranéen, mais avec du vent. Côté température, prévoyez 8 à 14 degrés, mais jusqu'à 19 degrés dans le sud-est.
Et on vous retrouve à 13h27. Avant cela, une médecin urgentiste qui s'amuse des demandes délirante de ses patients.
Il y a aussi le papa qui nous emmène son fils paniqué en nous disant il vient d'avaler 90 centimes, aidez-moi, il faut que je le récupère pour acheter le pain.
Ah bah oui, il est fou les 90 centimes. Elle sort un livre jeudi, ce sera la rubrique C'est mon actu de ce lundi, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti. Est-ce une énième attaque terroriste ? Une fusillade ce matin dans le tramway d'Utrecht aux Pays-Bas, acte potentiellement terroriste, dit la police. Le tireur est en fuite. Nous retrouvons tout de suite l'un de nos correspondants dans la région. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour Bruno.
Pierre, que peut-on dire de cette fusillade ?
Mais il était 10h45 ce lundi matin à la place du 24 octobre. On est à Canal Eiland, c'est dans le sud-ouest d'Utrecht, relativement proche de la gare centrale. Lorsqu'un homme a fait feu dans le tramway, annonce la police, il y a eu un mouvement de panique. Les témoins ont vu les passagers fuir le tramway, de nombreux blessés. Il y aurait un mort, mais cette information-là n'est pas définitivement confirmée. En tout cas, il y a eu un très fort déploiement de services de santé, évidemment, sur place. 3 hélicoptères de réanimation et de très nombreuses ambulances. La police a bouclé la totalité du quartier dans le sud-ouest d'Utrecht et a aussi déployé ses unités antiterroristes. Et vous le disiez, acte terroriste est en tout cas pas exclu. La police le dit officiellement. La police qui affirme aussi que le tireur est en fuite. On parle d'une Renault Clio rouge. Ce sont des détails qui ne sont pas officiels. En tout cas, la police a demandé aux citoyens d'Utrecht de ne pas venir dans le quartier de l'incident. Elle annonce ça sur les réseaux sociaux. Et de la même manière, la mairie a demandé aux écoles de garder leurs élèves et de garder leurs portes fermées.
Merci Pierre, on vous retrouve dans le cours de ce journal s'il y a de nouvelles informations. La sécurité est renforcée dans les aéroports et les bâtiments clés des Pays-Bas. C'est ce qu'annonce à l'instant la police via l'agence France Presse. Ce n'est pas tout à fait une ville rayée de la carte, mais ça y ressemble. Au Mozambique, au sud de l'Afrique, face à Madagascar, le cyclone Idai a fait des ravages en fin de semaine dernière. 90% de la deuxième ville du pays, Beira, endommagée ou rayée de la carte. C'est une ville de 500 000 habitants. Écoutez Caroline Aga de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.
La situation est très difficile. Hier, nous avons survolé la ville en hélicoptère et nous avons pris la mesure des destructions. De nombreuses maisons sont détruites. Les toits se sont envolés, les arbres arrachés, les poteaux électriques abattus. Il n'y a pas d'électricité et la ville est privée de téléphone. On nous a dit que la situation à l'extérieur de Beira est encore pire. Nous n'avons pas pu y accéder pour l'instant, car toutes les routes sont coupées. Le seul moyen de pouvoir s'y rendre, c'est en hélicoptère. Et c'est ce que toutes les ONG humanitaires, comme la Croix-Rouge internationale, essayent de faire actuellement.
Un propos recueilli par Omar Waman à ce stade, et le bilan est sans doute, hélas, provisoire. Ce cyclone a fait 162 morts, 73 au Mozambique, 89 au Zimbabwe voisin. Les images de ce que vient de nous décrire Caroline Aga sont à voir sur franceinter.fr. Les violences de ce week-end à Paris sont terrifiantes. C'est le commentaire ce matin du gouvernement allemand. Alors le plus dur de la crise semblait passer pour Emmanuel Macron. Après les manifestations massives et violentes de l'automne, le grand débat, les milliers d'échanges, le plus d'un million de contributions, tout cela semblait avoir apaisé le climat. C'est sans doute vrai en partie. Mais patatras, ce week-end, à nouveau, comme en décembre, des images de saccage sur les Champs-Élysées, en boucle, sur les télés d'infos continues et dans le monde entier. Dans le maintien de l'ordre, il y a eu dysfonctionnement et même échec, reconnaît le gouvernement. Alors réunion ce matin à l'Élysée pour renforcer la doctrine, s'assurer qu'elle est appliquée fermement. Ont été convoqués par le président, le Premier ministre, celui de l'Intérieur, celle de la Justice. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
C'est une mise en scène, Yael, pour préparer les esprits à des mesures de fermeté.
Oui, c'est ça. Régler la question du retour à l'ordre public, voilà l'urgence. Ne pas laisser penser qu'il ne s'est rien passé entre le 1er décembre et le 16 mars. Attention à l'effet trompe-l'œil, me disait un ministre. Plus le mouvement s'essouffle et plus les radicalisés sont de sortie. 25 blessés côté forces de l'ordre samedi, c'est quand même 3 de plus que le 1er décembre. Inadmissible pour les deux têtes de l'exécutif qui font assaut de fermeté. Reçu à l'Élysée, Christophe Castaner assure que tout est passé au peigne fin. Problème dans la chaîne de commandement, peut-être. Culpabilité intériorisée par des forces de l'ordre épuisées qui ont peur de la bavure, sûrement. Mais faire tomber des têtes ne suffira pas, prévient un ministre. Il faut de nouveaux outils. Interdire les champs de manif, pourquoi pas. Et puis il y a surtout cet enjeu de crédibilité évident pour un président qui a repris du poil de la bête, vous le disiez, en assumant, dès ses vœux du 31 décembre, le virage de l'ordre. Est-ce que cela doit accélérer la sortie du grand débat et les annonces qui vont avec? Non, on garde notre tempo sans précipitation, assure un conseiller, qui a bien identifié l'autre sujet qui va monter pour le président, celui du climat. Cette manif-là, samedi, cette marche-là était massive. Sans incident, la fin du grand débat n'est décidément, Bruno, qu'un grand début.
Et on suit, voir s'il y a des choses qui émergent de cette réunion. Pour l'instant, rien. Nous revenons sur les failles du dispositif policier dans un instant. D'abord, reportage. 91 commerces touchés par les pillages samedi sur les Champs-Élysées. Une très grande majorité lourdement touchée, ainsi que des halls d'immeubles, 3 kiosques à journaux. La Chambre de commerce d'Île-de-France demande un plan d'urgence pour le commerce parisien. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Vous êtes avec Olivia Branger sur les Champs-Élysées, Yann.
Oui, sur cette avenue où certaines boutiques sont toujours fermées, avec des vitrines brisées recouvertes de bâches en plastique ou de panneaux en bois. Mais ce sont les kiosquiers qui sont les plus touchés. Sur l'avenue, plusieurs kiosques sont complètement calcinés, impossible de reprendre le travail. Donc, le ministre de la Culture, Franck Riester, est venu constater les dégâts ce matin et afficher sa solidarité avec une profession encore sous le choc.
Votre mission est une mission fondamentale, c'est une mission de service public, de distribuer la presse, donc on doit vous accompagner, on doit vous aider. Parce que mettre le feu à un kiosque, c'est un crime, ça aurait pu avoir des conséquences humaines aussi très graves.
Excédés par les violences, des habitants du quartier interpellent également le ministre.
Écoutez, monsieur le ministre, moi je suis riverain, je viens chercher mes journaux ici. Il faudrait un peu plus de fermeté et que les casseurs, en même temps, soient condamnés et que les casseurs payent. Parce que nous, on en a ras-le-bol.
José Russo a échappé de peu à l'incendie de son kiosque à journaux. Il dénonce aujourd'hui les défaillances du dispositif de sécurité mis en place samedi.
On savait depuis même 48 heures que ça allait chauffer. On aurait dû fermer les champs pour sécuriser aussi bien le tourisme que les commerçants et l'avenue. Ça n'a pas été fait.
Vous seriez favorable à une interdiction des manifestations sur les Champs-Élysées?
Non, il faut manifester. Si on a un coup de gueule, il faut le faire. Mais il faut le faire pacifiquement. Parce que les gilets jaunes, maintenant, malheureusement, c'est eux qui payent le prix aussi. Là, on les a décrédibilisés par des petits merdeux qui sont là juste pour en découdre avec la police, la République et notre capitale.
En attendant, le ministre de la Culture promet de recevoir les kiosquiers dans les prochains jours pour les aider à reprendre leur activité dès que possible.
Et la déclaration de principe à l'instant du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, je veux qu'il n'y ait aucun commerçant, aucun artisan obligé de mettre la clé sous la porte à cause de ces mouvements à répétition dont le MEDEF évalue le coût de 2 à 4 milliards depuis le mois de novembre. Alors les failles du dispositif policier, venons-y. Samedi à Paris, il y avait 5000 membres des forces de l'ordre, 6 blindés de la gendarmerie. Le renseignement avait alerté sur le caractère probablement violent des manifestations. Et pourtant, les pillages ont bel et bien eu lieu sur les Champs-Élysées. Il y a eu dysfonctionnement et même échec, reconnaît Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur, le bras droit du ministre Christophe Castaner. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à la rédaction de France Inter. Échec, pourquoi et en quoi ?
L'échec, c'est celui de ne pas avoir réussi à empêcher les attaques, la casse, une destruction massive qui plus est sur les Champs-Élysées. Comme en décembre, bis repetita donc, et c'est bien cela qui cristallise les critiques ce matin avec ces images où l'on voit durant de très longues minutes des policiers, des gendarmes qui regardent certains saccages sans réagir, qui sont à quelques dizaines de mètres et qui ne bougent pas en attendant de recevoir des ordres d'intervenir ou jusqu'à l'arrivée d'autres troupes prévues pour ça.
L'aspect statique mis en cause, toute la chaîne du commandement jusqu'au plus haut va être examinée, dit Laurent Nunez. Il y a eu un problème de commandement samedi ?
Alors, en clair, il s'agirait de retard à l'allumage en série dans les ordres donnés par le préfet de police pour intervenir, et donc d'abord depuis la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, où se trouvait pourtant le ministre de l'Intérieur qui a beaucoup tweeté samedi. Et ensuite, au niveau du commandement intermédiaire sur le terrain, et sur ce point-là, je vous propose d'entendre un autre son de cloche, celui de Patrice Ribeiro, le secrétaire général de Synergie, l'un des deux principaux syndicats d'officiers de la police nationale.
Il y a clairement un échec en ce sens que les Champs-Élysées ont été saccagés. En même temps, c'est un choix politique qui a été fait, qui, dans une équation globale, eh bien, doit peser entre ce qui est acceptable pour l'opinion publique, entre la casse et des prédations, ou des risques d'avoir des blessés ou des morts. Nos collègues samedi ont été extrêmement frustrés parce que on ne nous a pas donné les moyens d'intervention, ni encore une doctrine claire et ferme. Donc on a laissé casser. Que ça se décide au minimum à Beauvau, et très souvent même à l'étage du dessus, parce que on sait très bien que ça peut avoir des implications terribles pour un gouvernement, mais en tout cas, il n'y a pas de faute de commandement, il n'y a pas de faute au niveau de l'action de la police.
Christophe Castaner doit s'expliquer demain devant les sénateurs. Quelle solution possible, Emmanuel Leclerc ?
Alors, pour Patrice Ribeiro qu'on vient d'entendre, il faut aller plus loin que la seule interdiction des Champs-Élysées. Il faut interdire toute manifestation de gilets jaunes désormais, et qu'il n'y a pas besoin, selon plusieurs sources, d'attendre la future loi dite anti-casseurs, qu'il y a la loi actuelle contre les attroupements forcément non déclaré, qui a déjà montré son efficacité quand les décisions politiques, selon les syndicats de police, sont parfaitement claires en amont.
Les réactions politiques, c'est la droite qui tape le plus fort, le parti Les Républicains. Frédéric Pechenard, par exemple, vice-président de la région Île-de-France, ancien directeur général de la police, il met en cause le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Écoutez Frédéric Pechenard avec Renaud Dely et Marc Fauvel.
Les instructions politiques ne sont pas à la hauteur.
C'est le ministre de l'Intérieur.
Qui d'autre ?
Il est fragilisé.
C'est-à-dire qu'il est fragilisé par la crise et par l'absence de sortie de crise. J'ai été plus de 30 ans policier, je vous le dis franchement, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des choses très dures, mais qui duraient un jour, deux jours. En fait, je pense que le gouvernement a peur. Ils ont peur d'une bavure, ils ont peur d'un mort, et ils ont peur de donner les instructions qui permettraient à la police de reprendre le terrain.
Frédéric Pechenard, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le préfet de police Michel Delpech sur la sellette. Chez les Insoumis, question de nos confrères de France Bleu Provence à François Ruffin. Est-ce qu'ils condamnent les saccages de samedi ?
Moi, j'ai pour habitude de ne pas condamner parce que je ne suis pas juge. En revanche, c'est pas ma manière de militer parce que ma crainte, c'est qu'on ait un bout du mouvement qui se casse de la masse des Français. Donc, c'est pas mon choix. Maintenant, je voudrais quand même signaler une autre violence. C'est que depuis le début du mouvement, il y a 1000 à 2000 personnes qui ont été blessées et 82 qui l'ont été de manière très grave. Le président de la République n'a pas eu un seul mot de compassion, ni à l'égard des victimes, ni à l'égard de la famille.
Vous pourriez peut-être avoir un mot de compassion, François Ruffin, à l'égard, encore une fois, de ces personnes qui ont été pillées, à l'égard de cette famille qui a dû être évacuée après l'incendie d'une morgue.
Elle va de soi, ma sympathie à l'égard des personnes qui ont dû être évacuées de cet immeuble.
Bonjour Philippe Randé.
Bonjour.
Après avoir longuement parlé des conséquences des saccages à Paris, un contrepoint avec vous. Ailleurs, le climat était au calme et il y avait peu de manifestants.
Oui, peu de manifestants. Un exemple, Rouen, 1000 personnes dans la rue samedi 9 mars, et samedi, entre 300 et 500 seulement, avec moins de violence. Même chose à Nantes, quelques dizaines de gilets jaunes à peine dans le cortège climat ce samedi, et pas de dégâts, la différence des semaines précédentes. Il y avait aussi moins de gilets jaunes à Bordeaux, quasiment personne dans les rues de Rennes, bref, vous l'aurez compris, à l'exception de Toulouse, où la mobilisation est restée stable, avec même un regain de violence. C'est, on l'a dit et répété, à Paris que s'est concentrée la mobilisation. Pas vraiment une surprise, hein. Jérôme Rodriguez, un des relayeurs, comme il s'appelle, du mouvement, Jérôme Rodriguez me l'a confirmé il y a quelques minutes au téléphone, ce samedi 16 mars était prévu de longue date. C'était prêt et préparé en termes de convergence de la province vers Paris. Jérôme Rodriguez qui le dit, c'est 2 semaines de travail. Quant à savoir qui se cache derrière les violences, Jérôme Rodriguez ne veut pas parler de Black Bloc, mais bien de casseurs. Il condamne toute forme de violence, désole des dégâts, mais accuse également le gouvernement avant de conclure, oui, les renseignements étaient au courant de la venue de casseurs.
Et le grand débat s'achève, encore un échange entre Emmanuel Macron et un groupe d'interlocuteurs ce soir à l'Élysée, échange avec une 60aine d'intellectuels. C'est à suivre en direct chez nos confrères de France Culture à partir de 18h20.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duville.
L'actualité de la santé, le projet de loi santé examiné à partir de cet après-midi à l'Assemblée. Fin du numerus clausus dans les facs pour avoir plus d'étudiants en médecine, les hôpitaux de proximité dans les déserts médicaux et la possibilité donnée aux pharmaciens notamment de délivrer des médicaments sans ordonnance en cas de petite urgence. Le gouvernement espère une adoption avant l'été. Autre réforme, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, le reste à charge zéro. Développer des offres qui ne coûteraient rien aux patients chez l'opticien, le dentiste, le prothésiste, les appareils auditifs, entrée en vigueur dans 2 ans en principe, et si les choses allaient plus vite que prévu. La première mutuelle de France, Harmonie Mutuelle, qui couvre 4,5 millions de Français, dont 2 millions en contrat individuel, annonce la mise en place d'une offre reste à charge zéro plus rapidement que cela. Bonjour Stéphane Junic.
Bonjour Bruno Devic.
Président d'Harmonie Mutuelle, reste à charge zéro pour qui, quand et sur quoi ?
1er juillet 2019.
1er juillet, cet été. Okay.
Sur les 4,6 millions d'adhérents qui sont aujourd'hui adhérents à Harmonie Mutuelle, vous aurez 2 millions de nos adhérents qui pourront bénéficier de cette offre.
Donc les contrats individuels.
On sera sur des contrats individuels. Ouais. La raison pour laquelle nous avons fait ce choix, c'est que beaucoup de nos adhérents aujourd'hui nous renvoient leurs difficultés qu'ils ont encore à accéder aux soins. Nous avons, à travers le fonds d'action sociale qui est mobilisé par notre mutuelle, plus de 4 millions d'euros, plus des 3/4 des dossiers qui aujourd'hui concernent des difficultés d'accès sur le dentaire, sur l'optique et sur l'audioprothèse. Alors, c'est la raison pour laquelle on a souhaité se mobiliser auprès de ces adhérents-là.
À chaque fois, il y aura une offre pour le dentaire, une offre pour l'optique, une offre pour les prothèses auditives.
Oui, l'idée c'était qu'on puisse aller très très vite, parce que vous l'avez souligné, on est en amont et donc on anticipe la réforme qui était prévue dans 2 ans. Et l'idée c'était de s'appuyer sur notre réseau de soins conventionnés, c'est-à-dire nos 5300 centres d'optique, nos 5300 nos 3200 centres dentaires et nos 3200 centres d'audioprothèse pour pouvoir aller très très vite dans le déploiement de cette offre. Donc en effet, vous aurez une offre où le reste à charge sera nul pour l'ensemble de nos adhérents.
Alors parce que c'est une précision importante, dès cet été, mais auprès des professionnels de santé qui sont agréés par Harmonie Mutuelle, votre réseau, hein, c'est bien ça?
Oui, c'était.
On ne pourra pas aller n'importe où.
Non, parce qu'ensuite, on appliquera la réforme au fur et à mesure de son déploiement, mais ce que l'on a souhaité dès cette année, c'est de pouvoir frapper fort. Mmh. Parce que les inégalités d'accès dans notre pays sont encore extrêmement importantes, elles minent la cohésion de notre société, et nous estimons, nous, les mutualistes, Harmonie Mutuelle, aux côtés de la mutualité française, qu'il est important de pouvoir déployer cette réforme d'une manière forte. C'est une avancée sociale, et c'est la raison pour laquelle, pour aller vite, nous souhaitons nous appuyer sur notre réseau conventionné.
On peut imaginer que vos concurrents vont suivre, ça veut dire que assez vite, on pourra trouver cette offre aussi chez d'autres opticiens, d'autres prothésistes.
L'idée, bien sûr, c'est qu'en 2020, en 2021, on soit sur l'ensemble des autres partenaires qui sont aujourd'hui hors notre réseau conventionné.
Restons sur le concret. Ça représente quel montant les offres que vous proposez pour une paire de lunettes, par exemple?
On sera sur la paire de lunettes entre... des paires qui
pourront
aller
regardez vos petites fiches,
250 à 450 euros. Concernant les appareils auditifs, vous avez aujourd'hui 6 millions de Français qui sont concernés par des difficultés en matière de santé auditive. Et parmi les personnes qui ont des difficultés à entendre, 35% seulement sont équipés, sont appareillés. L'idée, c'est qu'on puisse prendre en charge des appareils entre 800 et 900 euros dans le cadre de notre offre. Bref, c'est un véritable effort qui est fait par la mutuelle, qui représentera un coût significatif pour la mutuelle.
10 millions, c'est ça ?
10 millions d'euros. Mmh. 10 millions d'euros en 2019 et 3 millions en 2020. Bref, c'est un effort, en effet, que nous faisons à l'attention de nos
adhérents. Et donc, forcément, une hausse des cotisations ?
Pas du tout. On sera sur...
Promis, juré, ça tourne, le magnéto tourne.
Oui, bien sûr. Mais je mets quand même, Bruno Duvic, parce que je profite de votre micro pour interpeller également les pouvoirs publics. Au fond, cet effort que nous faisons, on pourra le réussir dès lors que les pouvoirs publics ne profiteront pas, dans le cas de la montée en charge de la réforme du reste à charge zéro, eh bien l'occasion de nous transférer des charges qui viendront alourdir le coût de nos mutuelles. Donc ce que je demande, c'est que, un, on prenne en compte le fait que les mutualistes sont des partenaires fiables, pour porter des réformes qui sont des vraies avancées sociales, mais qu'on ne vienne pas alourdir le coût et la charge de nos mutuelles, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas respecter le contrat qui est le nôtre.
Alors, c'est comment en l'occurrence ? Ce serait quoi ? Qu'est-ce qui viendrait alors dire vos coûts ?
Moi, je prends l'exemple de 2018, où on a eu une augmentation de la hausse du forfait journalier hospitalier, qui a été, vous le savez, augmenté de 2 euros, et qui a eu un impact pour notre mutuelle de l'ordre de 20 millions d'euros.
En tout cas, votre promesse ici dans les studios de France Inter, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation, malgré cette offre dès cet été, pas d'augmentation des cotisations pour vos adhérents.
Elle s'inscrit dans un engagement que l'on a pris avec nos adhérents, qui est d'être dans une logique de politique de redistribution à l'égard de nos adhérents. Harmonie Mutuelle a eu, pour les cotisations de 2018 et 2019, un effort qui a été fait auprès de nos adhérents les plus âgés. Tout n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie aujourd'hui de répondre véritablement aux besoins de nos adhérents, et c'est la raison pour laquelle on a pratiqué des augmentations de tarifs qui étaient de l'ordre de moins 1%.
En un mot, vous pensez que les concurrents vont suivre vite ?
J'espère.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Inter, Stéphane Junic, répondre à nos questions pour cette offre donc reste à charge zéro chez Harmonie Mutuelle dès le mois de juillet. Autre information très pratique qui concerne la domiciliation bancaire. Vous allez comprendre, surtout si vous avez négocié un prêt immobilier récemment. La banque vous dit oui, mais en échange, il faut que votre salaire soit versé chez elle et pendant 10 ans. Ça ne doit plus être obligatoire. C'est un amendement passé inaperçu, voté en tout début de week-end. Alors, est-ce que les clients des banques vont vraiment y gagner ? Écoutez Serge Maître de l'Association française des usagers des banques.
C'était un dispositif qui était complètement abject au regard des droits de la concurrence, puisque ça vient à rendre le consommateur prisonnier de sa banque pendant 10 ans. Ce texte, il était même exorbitant de la pratique bancaire, puisque selon la FUB, seuls 30% des établissements bancaires introduisaient jusqu'à 2018 les clauses de domiciliation des revenus. On pouvait en sortir avant 10 ans, mais en abandonnant les avantages supposés, et deuxièmement, bien en ayant des pénalités. Le gouvernement rétropédale certes, mais en fait se met en conformité avec le droit européen parce qu'il risquait d'être gravement censuré par la Cour de justice de l'Union européenne.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Sachez que cet amendement, pour l'instant, c'est un projet dans le cadre de l'examen du projet de loi Pacte. Nouvelle grève du personnel des cimetières parisiens aujourd'hui. Il s'élève contre le projet de la mairie de Paris qui rendrait possible les enterrements le dimanche. C'est une information France Inter. Une deuxième plainte devant l'ONU déposée par deux avocats, Maître Dosé et Maître Leclerc. Tous les enfants français de djihadistes encore dans la zone irako-syrienne doivent être rapatriés et avec leur mère, disent-ils. Pas seulement les orphelins, comme les 5 rapatriés en fin de semaine dernière. Il y a urgence, Maître Henri Leclerc.
Au moins le retour de ces 5 enfants montre que nous disions vrai, car ils reviennent en très mauvais état. Ils reviennent avec, comme nous l'avions dit, des éclats de but dans le visage, des choses comme ça. Tous les autres, l'urgence reste, c'est une très grande urgence. En tout cas, les autorités françaises ont des moyens largement suffisants pour le faire.
La plainte est déposée devant le comité contre la torture de l'ONU. On reparle longuement de ce sujet dans le téléphone sonne avec Fabienne Saint-Esse sur France Inter. Entre 19h20 et 20h, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes ? 01 45 24 7000 et franceinter.fr. Le standard ouvre à 18h. Autre rendez-vous de la journée sur France Inter, c'est dans Par Jupiter. Quelle nouvelle de Najat Vallaud-Belkacem ? Eh bien, figurez-vous que l'ancienne ministre de l'Éducation sera l'invitée de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice dans Par Jupiter. Le président chinois Xi Jinping, bientôt en visite d'État en France, ce sera du 24 au 26 mars, autrement dit dans quelques jours, annonce de l'Élysée ce matin. Le cardinal Barbarin, reçu par le pape ce matin pour lui présenter sa démission après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. On verra si le pape accepte cette démission ou s'il attend une décision de justice en appel. Le foot féminin marque des points chaque année un peu plus. Un record vient d'être battu, record d'affluence pour un match féminin ce week-end en Espagne. Mathieu de Taillac, Atlético Madrid-Barcelone au stade Wanda Metropolitano.
60 000 spectateurs, cela fait du bruit, cela fait ce bruit. Très exactement, la précision est importante parce qu'il s'agit d'un record du monde. Le précédent avait été établi il y a presque un siècle, le 26 décembre 1920 à Liverpool, avec 53 000 personnes. Alors jamais deux clubs de foot de femmes n'avaient rassemblé autant de monde dans les tribunes, des spectatrices, des spectateurs et surtout beaucoup de jeunes filles, d'adolescentes ou de fillettes qui connaissent les noms de leurs stars et qui seront peut-être la relève du sport féminin qui se porte de mieux en mieux en Espagne. Le basket n'était pas en reste la semaine dernière avec plus de 13 000 spectateurs pour un match de seconde division féminine à Madrid. Mais quand le record touche le sport roi, une rencontre à guichet fermé au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético, c'est encore plus spectaculaire. On en oublierait presque le score, pourtant déterminant parce qu'il permet au Barça de se rapprocher à 3 points du leader, l'Atlético. Victoire des Catalanes donc par 2-0, but d'Assisat Ochoala à la 65e, puis de Toni Dugan à la 79e. À 6 journées de la fin, la Liga féminine est doublement relancée. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
Alors est-ce que 2019 en football, 2019 sera l'année des meufs sur franceinter.fr? On examine les données de ce vaste problème. En tennis, Dominique Thiem, quatrième joueur mondial ce matin après sa victoire ce week-end en finale d'Indian Wells. Il passe devant celui qu'il a battu, Roger Federer. Les trois premiers restent Djokovic, Nadal et Zverev. Une révélation pour le grand public sur Paris-Nice et du cyclisme. Le Colombien Egan Bernal a remporté la course ce week-end à 22 ans. Le coureur de l'équipe Sky est le plus jeune vainqueur de Paris-Nice depuis 1935 et René Vietto. Patient, casse-couille, c'est à paraître ce jeudi aux éditions de L'Opportun. Vous allez voir de quoi il s'agit. Nous parlons de C'est mon actu chaque lundi. Vous nous dites quelle est votre actualité de la semaine. Et aujourd'hui, c'est l'actualité du docteur Sonia Camet, médecin urgentiste en Bretagne. Son actualité, c'est donc la sortie de ce livre qui recense toutes les demandes totalement farfelues, voire ridicules, des patients aux urgences. Le titre a le mérite de la clarté. Le patient casse-couille entre le feignant, le trouillard, le parent. Il y en a beaucoup. Le parent, par exemple, tiens.
Il y a aussi le papa qui nous emmène son fils, paniqué, en nous disant « Il vient d'avaler 90 centimes, aidez-moi, il faut que je le récupère pour acheter le pain ».
Vous êtes sans voix, là.
Je suis restée sans voix.
Il y a aussi tous ceux qui vous prennent pour des nounous, quoi.
On a quelques parents qui nous emmènent leur très jeune enfant parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les repas, le sommeil, et donc ils nous demandent de les garder quelques jours, le temps qu'ils se reposent un petit peu.
Mais ils pensent à quoi, à ce moment-là, ces patients?
Je sais pas, ils pensent qu'on est là pour tout.
Docteur, parmi celles qui vous font le plus rire?
C'est les patients qui ont du mal avec leur traitement, comme cette femme qui me dit que vraiment elle n'arrive pas à avaler les ovules gynécologiques prescrits pour sa mycose.
Non, c'est faux.
Si.
Quoi d'autre?
Un jour, j'ai un homme qui s'est interposé entre moi et brancard, alors que j'allais m'occuper d'une jeune fille qui avait un couteau planté dans le sternum. Il m'a pris par le bras, il m'a retenu et il m'a dit « mais j'étais là avant ».
Qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur ?
Une conjonctivite.
Allez, on se lasse pas, continuez.
Cette femme qui était venue aux urgences parce qu'elle était malencontreusement une nouvelle fois enceinte, et à l'interrogatoire, on se rend compte que c'est son mari qui prend la pilule parce que elle, ça la fait grossir.
Il y a les ordonnances aussi, les certificats totalement ahurissants.
Genre, est-ce que vous pourriez faire une ordonnance pour mon mari en lui disant qu'il faut absolument qu'il prenne une douche par jour? Le pire des fois, pour un médecin, enfin pour un urgentiste, c'est d'avoir envie de rire quand il faut pas.
Exemple.
Comme ce monsieur qui venait d'avoir une grave intervention de l'œsophage, qui m'explique qu'on lui a remplacé une partie de l'œsophage par un morceau de son côlon, mais que maintenant, quand il rote, il a l'impression de péter.
Finalement, ce qui est dans ce petit bouquin, c'est ce que vous racontez à la machine à café?
Oui, au sein de l'équipe, c'est ce qu'on se raconte. Et je pense que c'est ce qui nous fait tenir.
Voilà, on vous aura tout dit et le livre sort le jour du printemps.